Chapitre 18. J'ai vu mon frère aujourd'hui. Il était au cinéma, trois rangs devant moi, le bras autour d'une jolie blonde dont les cheveux raides tombaient dans son dos comme un rideau de soie. Je mangeais du pop-corn, mais à la seconde où je l'ai aperçu, je me suis mis à tousser et j'ai dû me planquer vite fait quand il s'est retourné avec agacement pour voir qui faisait ce raffut. Je suis restée un moment à quatre pattes sur le sol poisseux du cinéma. Je savais pas quoi faire. Je voyais pas comment réagir. Alors, après un bout de temps, j'ai décidé de faire ce que je faisais le mieux. Rien du tout. Je me suis rassis. J'ai posé mon pop-corn sur mes genoux. Et j'ai regardé le film d'horreur. Un défilé de tronçonneuses. Aucun détail n'était réaliste. Hollywood ne connaît rien au sang. Le vrai. La blonde aimait bien mon frère. Chaque fois que la bande-son du film se faisait menaçante, elle se blottissait contre lui, la tête enfouie dans son épaule. Sauf qu'elle ne s'est bientôt plus donné la peine de la relever. Elle l'a laissée là, sur sa poitrine, et il l'a serrée plus fort. Et ils ont ri tous les deux, pour une raison qui n'avait rien à voir avec le massacre à l'écran. Elle avait un joli rire, pétillant et frais, comme une journée d'été. Summer, c'est le nom que je lui ai donné dans ma tête. Mon grand frère sortait avec une fille qui s'appelait Summer. J'aurais parié qu'il se promenait au clair de lune, qu'il se plottait à l'arrière de la voiture empruntée à mes parents, qu'ils avaient été au bal de fin d'année, sa fringante petite poitrine dissimulée sous un immense corsage. Ce n'était pas juste, me suis-je dit, maussade. Pas juste que je sois mort, alors que lui continuait à vivre. J'ai encore mangé du pop-corn, bu un litre de coca et broyé du noir pendant la fin du film. Les lumières se sont rallumées. Mon frère et sa petite amie se sont levés. Il portait le blouson réservé aux meilleurs sportifs du lycée, forcément. Il l'a posé sur les épaules de Summer et elle a ri à nouveau, le refermant autour d'elle. Mon frère avait hérité du physique nerveux de mon père. Pas grand, mais bien bâti. Je me disais qu'il avait dû gagner ses galons au baseball. Il était peut-être le lanceur vedette, la mâchoire bien dessinée, les cheveux bruns coupés courts. Alors il a encore souri, une fossette a creusé sa joue gauche, et à cet instant, je me suis rappelé exactement à quoi ressemblait ma mère. Et la douleur de revoir son visage après tant d'années m'a mis à genoux. J'avais le souffle coupé, mais je faisais pas le moindre bruit. J'essayais de respirer, mais l'air refusait d'entrer dans mes poumons. Alors je me suis pliée en deux, silencieux, amorphe, flaque d'imperméable sombre sur un sol plein de taches. J'ai regardé les pieds de mon frère remonter l'allée. J'ai entendu sa voix grave demander à Summer à quelle heure elle devait être rentrée. « J'ai encore une heure », a-t-elle répondu. « Parfait », a dit mon frère, « je sais où on peut aller. » Je l'ai suivi. C'était pas très dur. Il conduisait une voiture, un 4x4 grand modèle qui appartenait sans doute à notre père. Un autocollant proclamait « Alpharetta Raiders ». Ma famille avait déménagé, logique. J'avais déménagé au moins 20 fois, pourquoi pas eux? Il s'est engagé sur un chemin de terre. J'ai compris qu'il s'agissait de l'allée des amoureux dont j'avais entendu d'autres gamins parler. J'en connaissais pourtant pas des masses, vu que j'avais jamais eu le droit d'aller à l'école et tout ça. Pas de blouson de sportif vedette pour moi, pas de bal de fin d'année, pas de jolie petite amie blonde, non. J'étais juste le détraqué solitaire qui se pointait dans différentes maisons des jeunes en vêtements tirés des surplus militaires. Blême, hirsute, le monstre du coin. Toutes les villes en ont un. Et sans raison, j'ai pensé à Noël. Est-ce que ma famille accrochait encore ma chaussette à la cheminée? Celle avec le bout rapiécé et mon nom griffonné en haut, en lettres d'argent scintillantes. Mettait-il un couvert à table? Emballait-il un cadeau juste au cas où? S'ils avaient déménagé, cela signifiait que je n'avais plus de chambre. Qu'étaient devenues mes affaires, mes livres, mes vêtements, mes jouets? Mis en carton? Donnés aux bonnes œuvres? Peut-être que mon frère avait une suite maintenant. Une pièce pour dormir, une autre pour se détendre. Il avait probablement un futon, une télé, une console de jeu. Il invitait des amis, y compris des pom-pom girls blondes qui gloussaient comme Summer. Je me suis demandé s'il était populaire, si les élèves du lycée l'admiraient. Lui, qui avait survécu au Burgerman. Ou bien peut-être qu'il était un héros de tragédie. Il a perdu son frère quand il était petit, mais regardez ce qu'il est devenu. Et juste au moment où je commençais à bien me monter la tête, où j'étais prêt à le haïr, lui qui était là-bas à fricoter avec la pimpante petite Summer, je repensais à ma mère, et la douleur est revenue comme un coup de poignard sous mes côtes. Je me suis demandé s'il faisait la fierté de mes parents, si le regarder aidait ma mère à dormir la nuit. Je me suis rangée sur le chemin de terre. J'ai sauté de mon petit tas de boue et je me suis planquée derrière un arbre juste à temps avant que ma vessie explose. J'ai pissé 1 litre de coca et même davantage. J'ai pissé pendant une éternité, pour ainsi dire. Et quand je suis ressortie, la voiture de mon frère était réapparue sur le sentier. Pas le temps de battre en retraite. Je pouvais seulement espérer qu'il ne me remarquerait pas. Tu parles. La voiture a ralenti, la vitre côté conducteur s'est abaissée, mon propre frère m'a regardé avec fureur. « Hé, tu serais pas le connard du cinéma? Qu'est-ce que tu fous? Tu nous suis ?» J'ai pas dit un mot. Il a eu l'air encore plus furax, à 2 doigts de descendre de voiture. Alors j'ai entendu la voix de la fille dans le 4x4. « Je t'en prie, mon cœur, fais pas ça, il n'en vaut pas la peine. Et puis il faut que je rentre. »« Ouais, » a répondu mon frère à regret. Ouais, je suppose que t'as raison. J'ai vu sa main se poser sur le levier de vitesse, passer la première, et je me suis retrouvée à foncer sur la voiture, avec mon long imperméable noir qui claquait, mes chaussures de chantier qui s'enfonçaient dans la boue. J'avais une grosse branche entre les mains. J'ignore comment elle était arrivée là. Hé ! J'ai hurlé à plein poumon. Hé ! Mais qu'est-ce que... Ne te laisse pas enlever par le Burgerman ! Et ensuite, je me suis retrouvée à pilonner la portière de la voiture. Je l'ai frappée tellement fort que le bout de bois a volé en éclats. La fille hurlait. Mon frère s'est baissé, a protégé sa tête avec ses mains. Je me suis déchaînée, attaquée au phare, à la grille du radiateur. Je cognais avec la petite branche fracassée. Je filais des coups de chaussures, je hurlais tant que je pouvais. Il y avait des larmes sur mes joues, de la morve qui coulait de mon nez. Et je pouvais pas m'arrêter, je pouvais pas. Parce que j'aimais mon frère au point de le haïr. Je l'aimais d'être vivant. Je le haïssais de ne pas être moi. Je l'aimais d'avoir une aussi jolie petite amie. Je le haïssais de la fossette de ma mère. Je l'aimais d'en avoir échappé et je le haïssais. Parce que je n'étais plus son frère. Et que c'était ce que je désirais le plus au monde. Alors j'ai démoli sa voiture. J'ai passé le verre et l'acier à tabac jusqu'au moment où j'ai entendu le moteur rugir et où je n'ai eu qu'une seconde pour m'écarter. Mon frère a démarré en trombe sur le chemin de terre pour fuir ce taré armé d'une branche. Mon frère a fui loin de moi. Chapitre 19. Parmi les phénomènes remarquables chez les araignées, il faut citer le comportement particulier associé à l'accouplement. La parade nuptiale est généralement initiée et poursuivie par le mâle, quoique dans certains cas, la femelle puisse également y participer une fois atteint un certain degré d'excitation. Tiré de How to Know the Spiders, 3e édition, B.J. Caston, 1978. Kimberly rentra tard. La maison était plongée dans le noir, hormis la lampe habituelle dans le couloir, et le petit rond de lumière sur le bureau de la cuisine où Mac avait empilé son courrier et ses messages téléphoniques. Pas de smiley ce soir. Au lieu de cela, sur le post-it du dessus, un dessin rudimentaire qui représentait des lignes arborescentes s'achevant par de petits ovales. Il lui fallut un moment pour comprendre. Un rameau d'olivier. L'image la fit sourire, tandis qu'elle sentait des larmes lui picoter les yeux. Son mari était tellement meilleur qu'elle-même. Comment avait-elle pu avoir autant de chance? Elle devrait aller le voir, lui dire qu'elle était désolée et lui demander pardon. En même temps, était-il vraiment opportun de s'excuser de poursuivre une enquête à laquelle elle n'avait aucune intention de renoncer? Elle tourna en rond dans la cuisine, remontée à bloc, comme elle l'était toujours au début d'une nouvelle affaire, le cerveau en ébullition, débordante d'adrénaline. Delilah Rose était Ginny Jones. Et Ginny Jones était une victime, une complice, pire encore. Elle ouvrit le réfrigérateur, attrapa une bière, se reprit, soupira et la reposa. Elle entra dans le séjour et regarda les silhouettes obscures du canapé en cuir, du fauteuil relax de Mac, de leur télé franchement surdimensionnée. Petite fille, elle s'entraînait à traverser la maison à pas de loup, la nuit. Pas Mandy. Non, sa grande sœur avait peur du noir et dormait dans une chambre avec deux veilleuses et une lampe allumée en permanence. Mais pour Kimberly, la nuit était une aventure. Saurait-elle descendre sans faire de bruit de sa chambre au premier étage jusqu'à la porte d'entrée de leur demeure coloniale? Elle imaginait qu'elle traquait des méchants, ou qu'elle déjouait les plans d'un intrus qui se serait déjà introduit dans sa maison. La nuit faisait naître des monstres, et aussi loin que remontaient ses souvenirs, elle avait voulu les combattre. Les trois quarts du temps, son père, insomniaque, la prenait sur le fait. « Qu'est-ce que tu fais debout, Kimberly ?» demandait-il. Et, gênée de s'être fait surprendre et refusant d'avouer à son super flic de père qu'elle pourchassait des ombres, elle répondait « Je voulais juste un verre d'eau. » Il la dévisageait un instant. Le silence avait toujours été son arme maîtresse et il en usait avec brio. Pour finir, il allait dans la cuisine et revenait avec un verre d'eau. « La troisième marche en partant du haut, » lui indiqua-t-il. « Elle grince. » Et la nuit suivante, elle avançait un peu plus loin au milieu des ombres. Après le départ de son père, elle s'était promenée à loisir dans la maison. Sa mère avait le sommeil lourd, et avant d'avoir 14 ans et de découvrir les garçons, Mandy n'avait que faire des promenades nocturnes. Seule Kimberly faisait des rondes, nuit après nuit, pour protéger sa mère et sa sœur. Parce que maintenant que le super flic n'était plus là, elle restait le seul rempart de la famille contre les monstres. Jusqu'au jour où elle était partie pour l'université et où Mandy et sa mère avaient été assassinées. Et merde. Kimberly se dirigea vers la chambre. Mac semblait dormir, un bras sur le visage, l'autre replié sur le ventre. Elle ne le dérangea pas, entra dans la salle de bain où elle se brossa les dents, se débarbouilla, se peigna. Elle enleva ses vêtements, trouva son pyjama, ouvrant dans l'opération un grand nombre de tiroirs et de portes de placard. Elle retourna dans la cuisine se chercher un verre d'eau et le posa fermement sur la table de chevet. Elle ouvrit le lit, sauta dedans. Mac grogna. « Oh, tu es réveillée !» s'exclama-t-elle toute guérette. Mac ouvrit un œil, puis le couvrit à nouveau de son bras. Elle lui donna une petite bourrade dans l'épaule. « Comédien ! Pas du tout !» « Je t'en prie, j'ai déjà vu ce numéro. » Il ne protesta plus et ouvrit les deux yeux. Ils s'observèrent un instant avec méfiance. « J'ai bien aimé ton dessin, » souffla-t-elle. « Je ne suis pas un grand artiste. » « Suffisamment. » « Je n'aime pas que nous nous disputions, » dit-il sans transition. « Moi non plus. Je n'aime pas m'inquiéter pour toi, ni me réveiller certains matins et m'apercevoir que nous allons devenir parents, alors que nous n'avons même jamais eu de chiot. Comment savoir si on sera capable de nourrir cette bestiole, de lui donner son bain, de la maintenir en vie? Tu sais ce que j'ai réalisé hier? Elle fit non de la tête. Nous n'avons pas de ficus. Kimberly, comment devenir de bons parents alors qu'aujourd'hui, il n'y a même pas de place pour des plantes dans notre vie? On ne donnera pas d'engrais au bébé, je suppose. Max se redressa et la couette lui tomba à la taille. Avec ses cheveux bruns ébouriffés par le sommeil, son visage mince et grave, il était sexy et sérieux. L'homme dont elle était tombée amoureuse bien des années plus tôt. Celui qui, nu comme un ver, l'avait demandé en mariage la veille du jour où elle devait procéder à une remise de rançon suffisamment risquée pour qu'ils sachent tous les deux qu'elle ne porterait pas la bague. Le lendemain matin, il l'avait laissée partir faire ce qu'elle avait à faire et elle l'avait aimé pour cela. Elle tendit la main pour lui caresser doucement le visage. « J'ai vu Delilah Rose », raconta-t-elle parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Il s'avère qu'il s'agit en réalité de Ginny Jones, kidnappée, prétend-elle, il y a 2 ans, et contrainte à se prostituer pour sauver sa peau. Elle affirme que son ravisseur a tué sa mère et supprime systématiquement d'autres filles les unes après les autres. Elle n'a fourni aucun détail, aucun signalement ni information permettant de confirmer son histoire, mais Sal pense en avoir assez pour creuser l'affaire. Et je vais l'aider. Au moins jusqu'à ce qu'on en sache assez pour monter une vraie cellule d'enquête. Même là, tu lâcheras pas le morceau. Je ne sais pas. Il faudra bien quand le bébé arrivera. Tu y travailleras depuis ton lit d'hôpital, voilà ce que tu feras. La main de Kimberly redescendit. Elle étudia les draps. Tu as raison, dit-elle rapidement. Je ne suis pas une lâcheuse, ni dans mon couple, ni dans mon boulot. Il ne répondit rien sur le moment. Elle sentit qu'elle devrait le regarder, mais ne parvint pas à s'y résoudre. Cela ne lui posait aucun problème de pourchasser une informatrice sur une route isolée la nuit, ni de chercher la tête d'un chasseur décapité. Mais là, dans sa propre maison, assise en tailleur sur le lit à côté de son mari, dans l'attention palpable, elle avait peur. Kimberly, reprit Mac posément, on m'a proposé une promotion. Chef de la brigade des stupes à Savannah. Elle lui jeta un regard sidéré. Mais Savannah... Savannah se trouvait nettement au sud-est, sur la frontière avec la Caroline du Sud, plus près de Hilton Head que d'Atlanta. L'agglomération était assez importante pour disposer d'un contingent respectable d'agents du JBI. Une bonne brigade des stupes, une très belle promotion. Et bien trop loin pour travailler là-bas tout en habitant Roswell. Tu ne me félicites pas ?
Félicitations, répondit-elle docilement.
Il ne fut pas dupe. Je ne te l'ai pas dit tout de suite parce que je ne savais pas quoi dire. Mais je me suis renseignée. C'est un très beau poste. Ça représenterait beaucoup pour ma carrière. Elle resta sans voix, se remit à étudier les draps. À côté d'elle, Max soupira.
Tu n'es pas la seule à aimer ton boulot, Kimberly, dit-il finalement. Et tu n'es pas la seule à y être bonne. Il se trouve qu'au cours des 12 derniers mois, j'ai aidé à mettre au jour une des plus grandes fabriques de cristal de l'État et démantelé tout un réseau de distribution. Moi aussi, j'obtiens des résultats. Et ça me plaît. Je sais. Le FBI a des antennes régionales. Elles sont petites, mais Savannah aurait peut-être besoin de renforts. On pourrait louer une maison dans les environs, tenter le coup. La dernière fois qu'on y a été, on a tous les deux remarqué combien le coin était ravissant. Près des plages, de Hilton Head. Ce ne serait pas un mauvais endroit pour élever un enfant.
Elle ne répondit rien.
Ou alors, poursuivit-il, peut-être qu'avec l'arrivée du bébé, ce serait l'occasion de prendre un congé. Peut-être une mise en disponibilité, voir ce que ça donne. Je resterai à la maison, tu travaillerais? Tu n'as jamais essayé, Kimberly. Comment tu sais que ça ne te plaira pas?
Il fallait qu'elle retrouve sa voix.
Impossible. Elle avait comme le souffle coupé. Hier encore, ils traçaient leur petit bonhomme de chemin et aujourd'hui... Aujourd'hui, le chaos était complet. Le boulot de Mac, son boulot à elle, le bébé... Elle n'avait plus aucun repère. as donné ta réponse ? S'entendit-elle murmurer. Tu sais bien que je ne le ferai pas sans t'en parler d'abord. Et ceci est notre discussion officielle ? J'imagine. Elle hocha la tête, attrapa le bord du drap, le tortilla. Il faut que je réponde ce soir ? Non, mais il faut sans doute que je leur donne une réponse d'ici une semaine. D'accord ? D'accord, on peut déménager ? Demanda-t-il plein d'espoir, même si elle devinait à la douceur de sa voix qu'il la taquinait. D'accord, on pourra en parler dans la semaine qui vient. Bien. Mais tu sais, Kimberly, dit-il en reprenant son sérieux, pour qu'on se parle, il va falloir que tu passes un minimum de temps à la maison. Bien sûr, dit-elle. Mais ils savaient tous les deux que le cœur n'y était pas. Il soupira à nouveau, se pencha, éteignit la lumière. Ils se blottirent dans le lit. Kimberly au creux de Mac, la main de Mac sur son ventre. Un couple heureux, duo sur le point de devenir trio. Un joyeux événement dans la vie de deux êtres qui s'aimaient. Elle garda les yeux grands ouverts bien longtemps après que son mari se fût endormi. À 1 h du matin, elle ressortit discrètement du lit pour aller dans la cuisine, composa le numéro de mémoire, mais tomba sur la boîte vocale. Laissa un message qu'elle n'était pas sûre d'avoir jamais laissé de toute son existence. « Papa, j'ai besoin d'aide. » Chapitre 20. Cette araignée est bien adaptée à la vie en intérieur avec les hommes. Tiré de Brown Recluse Spider, Michael F. Potter, entomologiste urbain, département d'agriculture de l'Université du Kentucky. Rita était réveillée. Cela lui sauva-t-il la vie en fin de compte ? Jamais elle ne le saurait. Dehors, il faisait noir. La nouvelle lune, si parfaite qu'il n'y avait même pas suffisamment de lumière pour dessiner des ombres sur le mur du fond. Les nuits étaient pourtant assez longues comme ça, sans être privées de jeux de lumière pour se distraire. C'est alors qu'elle les entendit. Des pas furtifs dans son jardin. Puis la porte de derrière qui s'ouvrait avec un grincement. « Joseph ? » murmura-t-elle, couchée dans son vieux lit double, ses mains noueuses agrippées au bord des couvertures. « C'est toi, Joseph ?» Mais ce n'était pas Joseph, évidemment. Depuis quand les fantômes faisaient-ils du bruit ? Elle s'appliqua à respirer lentement et régulièrement, entendit encore du bruit au rez-de-chaussée. La porte du réfrigérateur qui s'ouvrait avec un bruit de succion. Le gémissement d'un vieux tiroir récalcitrant. Et des pas. Beaucoup de pas, légers et rapides, qui traversaient la cuisine, montaient les escaliers. Respirait, lentement et régulièrement. Nom d'un petit bonhomme. Personne n'allait lui faire peur dans sa propre maison. Personne ne lui ficherait la frousse au point de l'obliger à se lever. Et alors le garçon apparut au pied de son lit. Il la regarda droit dans les yeux, les deux mains dans le dos. Elle lui retourna un regard tout aussi ferme, glissant sa main droite sous les draps. « Scott, » dit-elle, « il me semblait qu'on en avait déjà parlé. » Le garçon ne répondit rien. « Il y a des règles, mon garçon. Les invités comme il faut frappent à la porte. Ils attendent qu'on leur propose d'entrer. En aucun cas, ils ne s'introduisent en pleine nuit chez une vieille dame pour la faire à moitié mourir de peur. » Le garçon ne disait toujours rien. Rita se redressa. Elle savait qu'elle devait avoir l'air d'un épouvantail. De fins cheveux gris dépassaient comme des brindilles de son bonnet de laine posé de travers sur sa tête. Elle portait son habituelle chemise écossaise verte et un caleçon long taché de jaune. Elle s'habillait pour être au chaud et à l'aise, pas pour recevoir d'impertinents jeunes gens. Le garçon ne bougeait et ne parlait toujours pas. Alors elle ne le quitta pas des yeux, pour l'avertir qu'elle n'était pas aussi fragile qu'elle en avait l'air. « Montre-moi tes mains, Scott. » « Rien. »« Mon garçon, c'est la dernière fois que je te le demande. Montre-moi tes mains. » Pour la première fois, il frissonna. Une fois, deux fois, trois fois, puis il sortit brusquement ses mains de son dos. Il lui montra ses paumes ouvertes et expliqua d'une voix presque stridente de panique. « J'ai seulement besoin d'un endroit pour dormir. Une nuit. Je te dérangerai pas, promis. » Profitant de son manque d'assurance, Rita rejeta les couvertures et sortit ses jambes du lit. Ses articulations la faisaient souffrir quand elle se levait, mais elle se sentait mieux, plus vaillante, aux commandes. « Où habites-tu, Scott ?» Il serra les lèvres d'un air rebelle. « Est-ce que tu as des parents que je devrais prévenir ? Quelqu'un qui s'inquiète pour toi ?»« Je pourrais dormir ici, » murmura-t-il. « Par terre, j'ai pas besoin de grand-chose, en vrai. » »« Ne dis pas de bêtises, mon enfant. Mes invités ne dorment pas par terre. Si tu comptes passer la nuit ici, autant faire les choses bien. Viens, je t'emmène dans la chambre de Joseph. » Elle s'élança de son pas traînant, passa au pied du lit, frôla l'épaule du garçon. Il recula, dans une attitude de soumission. Encouragée, elle le conduisit au bout du couloir, dans la chambre de son frère, où les trophées de football poussiéreux s'alignaient encore sur une commode, et où l'édredon avait été cousu à la main par leur grand-mère avec des morceaux de leur couverture de bébé. En tant que fils aîné, Joseph avait reçu l'édredon pour le transmettre un jour à ses enfants. Mais il avait perdu la vie dans cette même guerre qui avait enlevé son mari à Rita. Il avait marché sur une mine en France. Il n'était pas resté assez de fragments de son corps pour des funérailles en bonne et due forme. Ses parents avaient enterré ses plaques d'identification et son père s'était enfermé dans la chambre de son fils pour ne plus en sortir pendant des mois. Sa sœur Béatrice aurait dû prendre l'édredon, mais celui-ci était resté dans la chambre de Joseph, où chacun d'eux venait de temps à autre, essayer de lui dire adieu, à sa manière. Rita écarta le vieil édredon. Elle lissa les draps de coton, froid et sentant le renfermer faute d'être utilisé. Elle attira le jeune garçon et l'aida à se mettre au lit. Il était passif à présent, presque mou sous ses doigts, et sa silhouette frêle s'effondra dans le lit. Elle repoussa une mèche de cheveux bruns sur son front et il tressaillit. « Rita, » murmura-t-il, « je suis fatiguée. » Et à sa façon de prononcer ce mot, elle comprit. Il n'était pas fatigué, il était fatigué. Un mal moral autant que physique. Une condition de l'âme. Elle remonta les couvertures, les coinça sous son menton. « Reste aussi longtemps que tu en auras besoin, mon enfant, » dit-elle, et elle le pensait. Puis elle regagna sa chambre, où elle tâtonna le long du mur du fond pour récupérer le couteau de cuisine que le garçon avait laissé tomber. Elle le ramassa et le posa sur la table de chevet à côté d'elle. Puis elle passa une main sous les couvertures et trouva le vieux Colt 45 de son père. Elle l'avait nettoyé la veille, chargé dans la soirée. Une belle mécanique, ancienne, mais toujours capable de remplir son office. Elle l'empoigna fermement et descendit tant bien que mal les escaliers, la main gauche agrippée à la rampe. Dans la cuisine, la porte ouverte battait légèrement au vent. Elle l'ouvrit en grand, jeta un œil dans son jardin, maudissant une nouvelle fois l'absence de lune. Elle vit des ombres en amont et en contrebas. Pas la moindre lueur dans les maisons voisines, pas de prunelles de matou luisantes. Alors elle ferma ses yeux et s'appliqua plutôt à sentir la nuit. Ses frères et elle faisaient cela quand ils étaient jeunes. Ils campaient dans le jardin en jouant à être dans la jungle amazonienne. « Ne regardez pas avec vos yeux, » leur disait tout bas leur père de sa voix grave. « Regardez avec votre intelligence. » Cherchez avec votre cœur. » Elle se demandait toujours si Joseph aurait dû fermer les yeux la nuit où il était parti en patrouille. Peut-être que s'il n'avait pas regardé, Peut-être que s'il avait senti, jamais il ne se serait fait avoir par cette mine terrestre. Et alors elle l'aperçut bel et bien. Forte, froide, assez puissante pour qu'elle ait un mouvement de recul. Une présence dans la nuit, affamée, à l'affût, haineuse. Elle rentra en toute hâte dans sa cuisine, ferma la porte, trouva le verrou. Mais pour la première fois depuis des lustres, elle prit conscience de l'état de délabrement de sa vieille maison. Une porte de derrière avec une grande vitre, idéale pour qui voudrait la fracasser, et un chambranle en bois friable, très facile à forcer avec un pied de biche. « Je vais souffler, souffler, et ta maison s'envolera. » Elle tremblait à présent. Un goût de peur, comme de la bile au fond de la gorge. Le pistolet semblait trop lourd dans sa main, son bras trop faible. Elle était souvent à peine capable de marcher. Alors comment était-elle censée soulever ce machin, sans parler de viser? Mais elle eut bientôt honte de sa lâcheté. Elle n'était pas une idiote. Elle était de la race des survivants, la dernière de sa lignée. C'était sa maison. Bon sang, elle n'allait pas se laisser faire. Elle passa de pièce en pièce, inspecta tous les recoins, vérifia toutes les serrures. Peut-être qu'au matin, quand elle serait plus fraîche et dispose, elle pourrait changer quelques meubles de place. Et elle avait un peu de bois dehors. Elle pourrait le tailler en baguette et s'en servir pour renforcer les fenêtres. Et des cloches, celles des décorations de Noël, les accrocher ça et là pour se faire son propre système d'alarme. Oui, monsieur, elle avait encore plus d'un tour dans son sac. Réconfortée, elle alla de son pas traînant jusqu'à l'escalier et commença péniblement à se hisser jusqu'à l'étage. Lorsqu'elle rejoignit enfin son lit, elle s'écroula sur les couvertures et s'endormit d'un sommeil de plomb. Ses toutes premières heures de sommeil depuis des semaines. À son réveil, la porte de sa chambre était ouverte et son pistolet soigneusement posé sur l'oreiller à côté d'elle. Le garçon était parti. Elle se demanda si elle le reverrait.